Interview.
1/3 pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou aussi en podcast sur le site www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Emmanuel Ferrat. Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Ferrat, vous êtes ici pour nous présenter la brasserie des Trois Becs qui se situe donc à Gigors et Lozeron.
Oui, c'est ça. Ouais.
Vous y êtes installé depuis quelques années quand même.
Ouais, l'aventure commence en 2015. Alors pas sur le même lieu sur lequel nous sommes aujourd'hui. On a déménagé. Tout d'abord, c'était la réhabilitation d'un petit poulailler en bord de Scie, la rivière. Voilà, pour démarrer une aventure de paysan brasseur. Je me suis lancé en 2015 avec quelques terres agricoles sur la... Voilà, la production d'orge et de houblon, et derrière, de transformation en bière. Voilà. Aujourd'hui, on est sur un nouveau lieu qui est un bâtiment éco-construit, toujours sur la commune de Gigors et Lozeron, mais du côté, cette fois-ci, de la Gervanne, du côté Lozeron. Voilà, donc juste au-dessus de Beaufort-sur-Gervanne.
Cette brasserie, vous l'avez conçue avec une prise de conscience du territoire et puis aussi du respect de la nature. Et pour ça, donc, vous, comme vous le disiez, vous avez éco-construit un bâtiment et à l'intérieur, vous y produisez cette bière. Et aussi, en parallèle, vous vous êtes attelé à produire tous les produits sur place, à commencer par le houblon.
Oui, alors, c'est ça. En fait... C'est une vraie prise de conscience en 2014, juste avant de me lancer. J'ai toujours voulu me lancer dans une activité agricole avec une valorisation par la transformation agroalimentaire. Bon, alors je me suis essayé à certaines choses, paysan boulanger, etc., etc. Et en fait, c'est là où s'est rejoint une passion d'adolescent, quoi, la bière, en termes de dégustation. Et puis c'est vraiment aussi porté par... Par les premiers à avoir relancé la bière artisanale. Hein. D'ailleurs, Androme, on a Marcus, etc. Voilà. Donc, moi, je me basais de ce principe-là et de me dire, OK, mais par contre, de quoi est composée la bière ? On se posait très rarement la question à l'époque. On se la pose de plus en plus aujourd'hui, mais vraiment peu à l'époque. Effectivement, d'eau, alors ça, voilà, c'était le premier point. Donc, d'où l'implantation à Gigors et Lozeron. C'est pour bénéficier de cette superbe eau de source non traitée qui a une minéralité incroyable. Et puis après, effectivement, l'orge, la céréale. Et le houblon, la plante aromatique. Alors, l'orge, c'est plutôt le premier ingrédient qu'on produit. On est autonome en orge parce que c'est une céréale qui se produit, qui se cultive assez bien, en fait, dans nos climats, sur nos sols. Mais le houblon, ouais, c'est plus confidentiel. On a commencé en 2016, un an après, avec un champ expérimental, d'abord. C'était l'un des premiers, d'ailleurs, en Rhône-Alpes, à titre expérimental, en bio. Et c'est dur, voilà, c'est pas simple. En plus, on a eu des canicules, on a eu des voilà. Mais on apprend vachement et d'année en année, on y croit. Moi, j'espère que d'ici 3-4 ans, on soit devenu autonome en houblon. Voilà.
Le houblon nécessite beaucoup d'eau.
Ben oui, en fait, ça nécessite de l'eau. Alors, le beaucoup, c'est souvent trompeur. Hein. On est en micro-irrigation, déjà, donc on consomme vraiment l'eau nécessaire pour la croissance du houblon. Le problème, c'est que le houblon, il a besoin d'eau à des moments où il n'y a pas d'eau dans la Drôme. C'est plutôt ça, en fait. Évidemment, j'entends par là le mois de juin, le mois de juillet. Alors, cette année, on a eu moins de problèmes, hein, voilà, au grand dam des touristes. Mais c'est vrai qu'on a eu une année assez humide sur la fin de printemps. Mais oui, du coup, ça a besoin d'un peu d'eau quand même. Sinon, il stresse. Et quand il stresse, il produit pas, quoi. Il n'y a pas de rendement.
Principalement, vous avez deux variétés de houblon, hein, je reviens dessus. Le Cascade, donc une variété des États-Unis, et puis une autre allemande qui s'intitule Erlauto Erzbrücker.
du coup, ouais, ça, c'est les deux premières variétés qu'on a plantées. On en essaye d'autres parce qu'on utilise plus que deux dans la fabrication de nos bières. Donc, l'idée, c'est quand même d'être autonome. Hein. Mais c'est vrai que c'est les deux premières. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la variété Cascade, effectivement américaine, elle est en fait super connue. Alors, pas pour les non-initiés, mais elle, même si je vous dis, voilà, est-ce que vous buvez de la bière? Ouais, est-ce que vous buvez des IPA, par exemple, ou des bières un peu amères? Bah, ce style de bière, voilà, est vraiment sorti. Vraiment, ça a fait un phénomène de mode. Et c'est des bières qui sont composées historiquement de beaucoup de ces houblons-là, américains, etc. Donc le faire pousser ici, ça a du sens. Pourquoi ça a du sens? D'abord parce que c'est le premier axe de fondateur de notre entreprise, qui est de dire on relocalise les filières agricoles. On est vraiment dans, voilà, dans la, une bière locale, pour moi, elle se conçoit, c'est produire autrement, voilà, c'est consommer autrement. Une bière locale, elle ne peut pas être locale que par l'entrepreneuriat et que par ce qu'elle porte, malgré que ça soit déjà génial. Mais pour moi, il faut que les matières premières, elles soient aussi locales. Donc, faire revenir du houblon des États-Unis, ça me paraît un peu dommage. Et ensuite, c'est un peu plus aussi, c'est un peu plus farfelu comme idée, mais moi, je crois dur comme fer à la bière de terroir. C'est-à-dire un produit qui va exprimer le terroir de là où il a poussé. Et donc, quoi de mieux que d'avoir une variété extraordinaire en arôme comme la variété Cascade, mais qui serait drômois, quoi. Voilà.
N'étant pas fin connaisseur de bière, qu'est-ce que vous pourriez déterminer dans cette appellation de bière de terroir? Qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver, justement, des saveurs, des odeurs du territoire?
Ouais, bah pour l'instant, de toute façon, c'est une idée qui échappe un peu à tout le monde parce que on peut juste faire des comparaisons, quoi. Voilà, moi, je peux vous comparer ça avec le vin. Voilà, le vin, il exprime un terroir dans évidemment ses odeurs, dans ses arômes, dans ses qualités organoleptiques. Il va exprimer les conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire le sol et le climat de là où le cépage a poussé. Le houblon, c'est une plante aromatique. Donc en fait. C'est aussi une plante qui va exprimer quelque chose. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver demain, mais c'est un travail peut-être d'une vie ou de deux, je ne sais pas, mais peut-être que demain, l'idée, c'est d'exprimer dans la bière nos terroirs français. Parce qu'on a un pays qui est quand même incroyable. On a un petit pays en termes de superficie à l'échelle mondiale. Et dans ce petit pays, on a tout un tas d'appellations. On a une agriculture qui sait vraiment valoriser les terroirs, que ce soit dans le vin, que ce soit dans le fromage. Pourquoi pas dans la bière, voilà.
Vous avez pratiqué une formation de brasseur. Et avant tout, est-ce que vous êtes penché un peu sur l'histoire de la bière? Vous avez l'air d'en parler assez bien. Et est-ce qu'il y a eu, fut une période, des brasseurs qui ont disparu pendant des décennies avant de revenir ici?
Ah oui, mais ça, c'est... Alors, je suis loin d'être un expert de la bière, mais c'est vrai que c'est une passion, donc toute passion aussi, voilà, s'approfondit. Mais oui, en fait, dans la Drôme, on est même allé faire un tour du côté des archives départementales. Vous pouvez y aller, c'est super bien. Et justement, on a retrouvé les traces des houblonnières d'avant. Donc, il y avait une production de houblons. C'est vrai qu'on est peut-être plus connaisseur finalement du fait qu'il y avait des plantations de tabac, par exemple dans la Drôme, ça on le sait, mais le houblon en faisait partie. Et oui, avant il y avait beaucoup plus de brasseurs. D'ailleurs, le niveau aujourd'hui, je crois qu'on a un peu plus de 2000 brasseurs aujourd'hui, là en 2021. Quand je me suis lancé en 2015, on était dans les 500 et quelques, hein, donc il y a eu une explosion de création de brasseries. Et en fait, on a retrouvé un peu les niveaux du nombre de brasseurs qu'il pouvait y avoir il y a une centaine d'années en arrière. Mais c'est ça qui est vachement intéressant, en fait, parce qu'on revient à des fondamentaux. C'est-à-dire que la bière, elle s'est déracinée. Elle s'est déracinée, c'est-à-dire qu'elle a perdu son attachement. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai, ça change, et tant mieux, ça va dans le bon sens. Mais il y a 5 ans en arrière, si vous faisiez un micro-trottoir pour savoir, en posant la question, mais quels sont les ingrédients qui composent la bière, je suis sûr, hein, pour l'avoir fait, vous aviez 3 personnes sur 4 qui ne savaient pas ou qui donnaient une réponse incomplète. Alors que vous demandez à quelqu'un dans la rue de quoi est composé le vin, tout de suite, c'est évident. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le vin a gardé. Ce côté artisanal, ce savoir-faire ancestral, et on l'a valorisé. Alors que la bière, on l'a sorti, ça a disparu, les savoir-faire se sont perdus, et après, c'est devenu quelque chose qui est devenu industriel. Alors, c'est très bien fait, hein, d'un point de vue industriel, il n'y a rien à dire, hein, mais ça du coup, on a perdu. Donc, comme ça, quand moi, je vous parle de valeurs qui sont des valeurs, finalement, somme toute, assez simples, relocaliser les filières agricoles, exprimer son terroir dans la bière, des fois, j'ai un peu l'impression de dire des trucs, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu farfelus, alors qu'au final, il n'y a rien de plus naturel que ça.
Ce bâtiment qui est nouvellement construit en tenant compte des normes environnementales, quel était son impératif au niveau de cette pratique de brasserie?
Bah, je crois que l'impératif, c'est surtout un peu des fois les idées un peu folles que je me donne. Alors pourquoi un peu folle? Parce qu'économiquement pas viable. Voilà, dans un premier temps. Voilà, c'est vrai que faire un bâtiment comme on a fait. C'est aussi prendre des risques, mais pour moi c'est un projet qui est global, c'est un projet qui comprend, c'est un projet de vie d'abord, c'est un projet de vie qui comprend une échéance à court terme qui est de produire déjà une bière 100% fermière, ce qui n'est pas encore le cas, à moyen long terme produire une bière qui exprimera le terroir d'Aumois et donc être dans la création être en tout cas moteur et dynamique dans j'espère une dynamique de création de bière de terroir. Et du coup, en fait, voilà, donc il a aussi des valeurs très fortes d'écologie, mais aussi sociale et de culture, parce que je suis aussi venu pour vous présenter aussi nos prémices dans la culture, parce que c'est difficile, mais on essaye de s'accrocher. Et ouais, ce bâtiment, il a ce côté-là, il est en bois, il est éco-construit, il est fait qu'avec des artisans de moins de 30 km à la ronde, du sol jusqu'au plafond. D'ailleurs, en parlant de sol, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de plastique non plus, il repose sur du verre recyclé. Voilà, on a essayé d'être jusqu'au boutiste. Bon, il a quand même fallu faire quelques concessions parce que l'enveloppe n'était pas illimitée. Mais ouais, on s'y sent bien. Mais je pense qu'il y a un vrai... D'ailleurs, quand on vient à la brasserie des Trois Becs, généralement, les gens disent « Ah, vous êtes bien là ?» Je dis « Ouais, c'est bon, on est bien. Ouais. »
La gestion d'une cuisson, si on peut appeler ça comme ça, pour une production quantifiée de bière, comment c'est géré? Je sais qu'il y a des brasseurs qui utilisent le système informatique pour pouvoir gérer la distribution et la réception ou l'envoi en cuisson. Comment vous gérez cette phase de fabrication?
Ouais, nous on a une... On a une unité de brassage qui est mixte, qui est à la fois manuelle et à la fois automatisée. Il y a un peu des deux. Pourquoi ? Bah parce que déjà, c'est celle qu'on a depuis le début. J'avais tout de suite, dès le départ, voulu investir dans une machine qui était capable de nous faire grandir, hein, parce qu'on a pas mal grandi ces dernières années, vite, comme à peu près tout le monde brassicole. Hein. Et du coup, c'était un choix que j'avais fait. Et donc, ouais, on a une partie d'informatique qui gère un peu quand même les cuissons, tout ça. Et puis, on a tous les transferts, tout ça, tout est encore manuel. Donc, c'est intéressant parce qu'on a encore ce côté où on touche le produit. Hein, parce qu'après, c'est vite le piège dès qu'on grossit aussi d'aller de plus en plus vers de l'automatisme. À la fois, c'est essentiel dans le monde dans lequel on vit. On en a besoin, ne serait-ce que pour le confort aussi des salariés. Je veux dire, à un moment donné, les charges lourdes, tout ça, voilà, c'est quand même... Mais c'est vrai qu'on va vers l'automatisation de plus en plus. Voilà.
Ce qui permet aussi une constance dans le goût ou la saveur d'une bière aussi, je pense.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, les consommateurs... sont attachés au produit. Hein. Ils défendent, ce qui est assez rigolo, ils défendent le produit avant les valeurs de la marque, finalement. Ça aussi, c'est un indicateur fort qui va dans le sens, d'ailleurs, de la bière de terroir. Parce que si on n'était pas autant attaché au produit, finalement, on pourrait douter de la pertinence d'avoir un goût et des arômes d'ici. Mais là, je crois qu'on est clairement dans la cible.
La brasserie des Trois Becs se tourne aussi vers la culture et donc pour ça, elle propose des soirées cet été. Ça a commencé déjà avec des concerts. Alors, on ne va peut-être pas tous citer les dates, mais on peut trouver tous ces renseignements sur la page Facebook, j'imagine.
Et sur le site internet, page Facebook et site internet, effectivement. On a aussi une page Instagram où on a mis l'affiche avec toutes les dates, même si c'est moins lisible. Mais on s'essaye à la culture. Alors ça, c'est pareil, c'est un souhait que j'avais dès le départ, mais qui est un souhait aujourd'hui qui est difficile à mettre en place. Alors bah, d'abord, la situation sanitaire, ça nous a un peu coupé dans notre élan parce qu'on a ouvert cette scène en juillet 2019. Voilà, donc on a fait 6-7 mois. Après, bah, évidemment, on a été confinés et la culture est passée un peu à la trappe. Hein. Je crois qu'on en est tous conscients. Mais ça nous motive d'autant plus à justement faire ces concerts cet été. Pourquoi cet été ? Bah parce que déjà, c'est le seul moment où on peut pour l'instant les faire. On fait tout dehors. C'est vrai qu'on bénéficie d'un cadre incroyable. On est sur le plateau des Chaux, dans le parc du Vercors. Voilà, je crois que le plus beau, la plus belle scène, c'est aussi la nature, quoi. Voilà.
Avec une température de quel ordre ?
Bah on est bien parce qu'on a quand même le vent du nord là-haut. Donc en fait, ça rafraîchit bien le soir. On a mis des voiles d'ombrage. Voilà, on est plutôt bien, ouais.
Et peut-être conseiller de se couvrir en soirée aussi.
Oui, au contraire, ouais, justement, ouais, je pense qu'il faut, amener une petite laine. Ouais.
Alors pour ça, il y a 9 groupes qui vont se produire prochainement, à commencer par vendredi avec Stup Production. Alors ça sera un vendredi 30 juillet et vous avez aussi une date à 20h.
Ouais, c'est 3 soirs. En fait, Stup Production, c'est pas un concert, c'est une troupe de cirque. C'est une troupe de cirque de créer des jeunes incroyables, talentueux, qui sont venus l'année dernière déjà sur le même format, 3 jours. Et en fait, ils font une représentation d'une heure, de 20h à 21h. Avant les concerts, voilà. Donc ça, c'est juste incroyable. Ils montent un chapiteau dans le champ en face. Enfin voilà, c'est improbable. C'est improbable dans ce lieu. On est vraiment super content de les recevoir. Et après, par contre, on a ces 3 concerts, donc vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est pour ce week-end, effectivement. Avec le vendredi, un brass band. Le samedi, un groupe en fait de swing manouche. Ça a changé au dernier moment.
Là, j'ai les voleurs de pompes.
Et c'est ça, c'est les voleurs de pompes qui viennent. C'est super parce qu'ils ont pu venir vraiment au pied levé. Parce qu'en fait, le groupe qui devait venir, le bassiste d'ailleurs, que je salue au passage, Olivier, que j'adore, qui est un bassiste de génie, bah, en fait, c'est blessé. Voilà, c'est blessé. Donc le pauvre, il va devoir annuler pas mal de ses concerts le temps qu'il se rétablisse. Voilà.
Et puis dimanche, il y aura aussi DJ Whisker.
Oui, DJ Whisker. Il est de chez vous, non ?
Ou il
est d'Audi. Voilà.
Il est passé par Air d'Ivoire, ouais. Lui aussi. Et donc lui, ça sera pour dimanche, de 21h à 23h.
Oui.
Alors, vous avez une jauge limitée au niveau des horaires ? Ça, c'est voilà, un impératif préfectoral ?
On essaye. Alors, oui et non. C'est-à-dire, on essaye d'être en cohérence aussi avec le territoire. Voilà. On est dans un lieu qui est magnifique, mais on est aussi dans un lieu où on pourrait se croire loin de tout, mais mine de rien, juste au-dessus, il y a le village de Lozeron. Et en fait, ça peut vite résonner. Donc, on essaie d'avoir des horaires qui sont des horaires de soirée, mais sans rentrer trop tard dans la nuit. Je pense que c'est une formule qui est agréable. On a vraiment un public très hétérogène, très hétéroclite. On a des familles, on a des jeunes, on a de tout. Mais on a toujours ce désir d'être dans une ambiance simple. Voilà.
Et la population de ce village entre Gigore et Lozeron, vous avez établi une petite boutique justement à cette brasserie. Et est-ce qu'il y a les habitants viennent parfois se servir ?
Ouais, c'est génial. En fait, on a fait En fait, du coup, on l'appelle le pub B3B. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est scène culturelle. Ça, on en parle. Mais c'est aussi ouvert à l'année. Et en fait, c'est un lieu où on peut venir effectivement acheter les produits de la brasserie, mais également se restaurer de produits locaux, travailler sous forme de planches. Donc on est super content d'ailleurs, parce que pour parler en 2 mots quand même de ces petits produits, on a par exemple un des producteurs qui vient de se lancer il y a 1 an sur Gigore, qui fait du cochon plein air en bio. Et ces cochons se nourrissent en partie avec les drèches. Les drèches, c'est des déchets, enfin, c'est des sous-produits en fait, hein, de la fabrication de la bière. C'est l'orge qui a cuit, le malt qui a cuit et qui est partiellement épuisé. Et c'est vraiment aussi un précepte d'économie circulaire, c'est que cette orge, elle resserre en alimentation animale, mais cette alimentation animale, après valorisation, elle est transformée en charcuterie bio qui sont remis en commercialisation au pub pour nos consommateurs et nos clients. Et ça, vraiment, c'est une grande fierté. Voilà.
Et vous proposez d'ailleurs des crackers aussi, toujours fabriqués à partir de drèches.
Oui, bon, c'est vrai, ça aussi, c'est une initiative qui est une petite initiative, mais qui va dans un sens. Je crois que c'est... moi, je suis persuadé, et c'est pour ça que je m'évertue à pousser dans tous ces sens, hein, voilà, de toutes ces valeurs-là. Je suis persuadé que pour changer Pour qu'on change de manière de voir les choses, de consommer, de produire, c'est une somme de petits gestes. Voilà. Alors on peut pas tous les faire, mais il y a certains qu'on peut faire. Voilà, les crackers aussi, c'est un petit geste. Hein, c'est même pas vendu. C'est vous venez boire un verre, bah, vous avez quelques crackers. Avant c'était des cacahuètes et des olives dans les bars, et ben maintenant vous avez des crackers à base de drèche. Voilà.
Donc on continue le vendredi 6 août, Memory Box, dont on écoute un extrait qui s'appelle Sugar Time, ce qui ne nous empêche pas de continuer à parler un petit peu en cours de ce morceau. Sweet home, sweet home, sweet honey, very sweet. Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at supper time. Be my little sugar and love me all the time. Honey in the morning, honey in the evening, honey at supper time. So be my little honey and love me all the time. Put your arms around me and sway based on the ball. You'll be mine forever in a heaven of love. Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at supper time. Be my little sugar and love me all the time. Well, sugar, sugar time, sugar time. Be my little sugar. Et puis à suivre la petite équipe le vendredi 13 août, donc toujours à 21h. Jusqu'à 23h. Alors, la petite équipe, c'est une formation du coin aussi.
Oui, 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 groupe de Saillant, qui a déjà joué à la Brasserie des Trois Becs, version 1, celle dont je vous parlais tout à l'heure, le poulailler en bord de scie, voilà. C'était d'ailleurs, il me semble, l'un des tout premiers groupes à avoir joué à la Brasserie, il y a 5-6 ans, voilà. Donc je suis très content de les recevoir à nouveau, dans un cadre complètement différent, mais toujours avec les mêmes énergies. Voilà, donc je suis super content de les revoir à nouveau.
À suivre les Chabadins, vendredi 20 août, toujours aux mêmes heures, 21h, 23h. Les Chabadins, pareil, hein, il me semble que c'est un groupe que j'ai déjà oui. entendu sur le coin.
Ouais, c'est ça, c'est pour venir swinguer, ça. Il faut venir, il faut sortir ses chaussures de danse. Ouais, on est super. On travaille beaucoup aussi avec les artistes locaux, aussi régionaux quand on peut, mais comme je vous le disais, c'est vrai que sur cette programmation estivale, l'idée c'est de faire vivre aussi le territoire, le lieu. Voilà. On est super content d'avoir tous ces groupes qui répondent présents, qui ont une énergie incroyable et un vrai talent. Un vrai talent.
Vous échangez aussi avec eux, ce sont des connaissances, plus ou moins. Et par rapport à cette dernière année, ça a été difficile aussi pour eux.
Oui, je crois que ça a été dur pour tout le monde. Et c'est vrai que... Alors c'est rigolo parce que là, les premiers concerts qu'on a fait, là, moi surtout, la sensation qu'à un moment donné, j'ai essayé de prendre un peu de recul pendant le concert, d'observer. Et en fait, c'est quand on observe le bonheur des gens qui écoutent et à la fois le bonheur des musiciens qui transmettent et qui reçoivent, c'est là où je me dis on en a un peu bavé quoi. Ça a toujours été un moment magique, un concert, mais ils le sont encore plus ces moments, je trouve. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ma sensibilité aussi. Ouais.
Sélection éclectique.
C'est bon, ouais.
Oui.
Ouais.
Et pour clore cette saison, le 28 août, un samedi, donc, Frank Carducci et The Fantastic Squad. Alors ça sera toujours aux mêmes horaires. Qu'est-ce que c'est comme style, par contre ?
Alors là, c'est génial. De recevoir Frank à la Brasserie des Trois Becs, ça pour moi, c'est une fierté. Frank, il a un groupe qui a quelques années, qui n'est pas très connu, pas en France. Pourquoi ? Parce que c'est du rock-prog. Progressif, nouvelle génération bien sûr, hein, mais c'est un style de musique qui est peu écouté en France, ou en tout cas voilà, qui est peu connu, même si ça a fait vraiment parler et écrire dans les années 70, mais aujourd'hui ça s'est un peu éteint. Mais Frank, il a cette fibre du rock prog en lui. Il a démarré sa carrière en Hollande quand Steve Hackett, pour info, guitariste de Genesis, l'a entendu dans un bœuf, lui a dit: Frank, il faut que tu fasses un album, je te coproduis. Voilà, l'aventure est partie de là. Depuis, il a été élu meilleur groupe de rock outre-Manche par les Anglais. Enfin voilà, c'est incroyable. Le recevoir, c'est... Puis moi, bon, vous l'avez compris, je suis un écouteur... Enfin, j'écoute beaucoup de rock prog, donc voilà, c'est un vrai plaisir que je me fais aussi. J'espère qu'il y aura du monde à ce concert. Voilà, ça vaut le détour. Là, c'est pour s'en mettre plein les yeux et plein les oreilles.
Voilà pour cet aspect festival d'été. Vous parliez donc d'ouverture aussi tout au long de l'année. Est-ce que la culture aussi peut se tourner vers d'autres styles de représentation, peut-être moins mouvementés, mais qui ont autant d'intérêt, comme du théâtre ou peut-être de la poésie, que sais-je. Au corpus autour d'un verre de bière, des fois, ça peut inspirer parfois, non ?
Ouais. Bah vous l'avez tout à fait compris. C'est exactement ce que je veux faire. Voilà. C'est juste que là, on a été bloqué. J'espère que la situation va évoluer favorablement dans le sens où cet automne et cet hiver, on pourra ouvrir. Voilà. Pour qu'on puisse proposer ça justement. Pour qu'on puisse proposer. On l'a fait un petit peu l'année dernière. On a eu une compagnie locale de théâtre d'impro qui est venue. On a eu la représentation de cirque qui va revenir cette année, comme vous l'avez compris. Et puis j'avais envie aussi de. On a plein d'acteurs locaux. Dans la projection cinématographique, j'aimerais bien projeter peut-être Et je choisis de vivre dans un premier temps avec je connais bien Damien Boyer, et du coup je trouve ça génial ce qu'il a fait avec Nance, tout ça. Enfin voilà, du coup les projections, ça peut être aussi une belle forme de voilà, la poésie, j'aimerais bien aussi. D'ailleurs, c'est un message, enfin c'est une porte ouverte à tous les artistes. Ils peuvent me contacter, ils peuvent nous contacter. On sera enchanté de les recevoir, de les accueillir.
Cette création, c'est une entreprise. Hein. Est-ce que vous avez eu un soutien au démarrage pour ce lancement, ne serait-ce que par une collectivité peut-être, pour amener un facteur d'emploi? D'ailleurs, combien de personnes travaillent dans cette brasserie?
Ouais, vous savez, c'est une entreprise, et quand on crée une entreprise, je crois que ça ne peut se faire qu'en créant du lien et en créant du tissu social, entre évidemment... Les acteurs salariés, mais aussi les institutions, les collectivités. Donc oui, bien sûr qu'on a été aidés. Oui, bien sûr. On l'est toujours, d'ailleurs. On est soutenus. On est soutenus parce qu'on veut avancer parce qu'on se bat pour avancer. Donc voilà, ça c'est super chouette. Et sur la partie combien on est, c'est très variable. C'est très variable. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, on a un métier qui va des champs jusque finalement à la bouteille, en passant par la scène de concert. Et tout ça, ça fait se rencontrer, se croiser un certain nombre de professionnels. Alors bien sûr, sur la partie brasserie pure et dure, on est 6 à l'année, mais après se croisent aussi les travailleurs des champs, les travailleurs du pub, il n'y a pas que la scène qui est hétéroclite, il y a aussi le microcosme aussi à l'intérieur de la brasserie des Trois-Becs, quoi. Ouais.
Là, actuellement, il y a un bâtiment qui permet cette production de bière. Et pour l'instant, la culture se cantonne à l'extérieur, dans un cadre idyllique. Mais est-ce que pour les périodes d'hiver, dans les années à venir, vous penseriez peut-être opérer une annexe de manière à accueillir un public en toute saison ?
Alors en fait, ça y est déjà. C'est-à-dire que là, actuellement, on a monté une scène provisoire extérieure. C'est-à-dire que quand on a créé le pub, vous l'avez compris, en 2019... le Covid n'existait pas, donc on n'était pas dans une démarche de faire de l'extérieur, on était dans une démarche de faire une scène intérieure avec une grande baie vitrée, en fait, tout s'ouvre sur l'extérieur. Mais actuellement, et ce depuis le deuxième été consécutif, en fait, on met tout dehors, donc on sort la scène, on sort la sono, on sort tout ça, c'est provisoire, mais non, on est prêt pour vous recevoir automne, hiver et printemps à l'intérieur, au chaud, avec des bières du coup adaptées aussi.
Autour de ce bâtiment, il y a aussi l'énergie. Hein. Vous tentez ou vous autoproduisez votre besoin en énergie.
Pas encore.
C'est un projet alors.
C'est un projet qui va certainement, je l'espère, voir le jour l'année prochaine. D'ailleurs, c'est avec des acteurs aussi locaux. Hein. Donc la centrale villageoise Gervancy et à Coprève, dans la vallée de Quin. Du coup, voilà, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est d'être autonome. Pas que dans les matières premières, mais d'être autonome aussi en énergie. Et ça, pour le faire, on va très certainement avoir un mix entre du photovoltaïque et du thermique en panneaux qui va nous permettre effectivement d'être autonome. Mais avant tout, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on va pouvoir aussi produire en autoconsommation collective, du coup, pour les habitations à côté. Et donc, ça pourrait peut-être... Alors là, on est au début des chiffrages, donc c'est des valeurs qui sont indicatives, mais ça pourrait concerner une quarantaine de foyers qui seraient alimentés par notre production. Et là aussi, ça a du sens, quoi. Là aussi, je trouve que ça fait partie de tous ces gestes qui peuvent faire changer les choses.
Par rapport à votre production, vous proposez combien de bières dans votre catalogue ?
Ouais, alors nous, c'est assez simple, même si des fois, on s'y perd un peu. Alors, pour être très clair, on a 5 bières permanentes toute l'année qui vont de la blonde à la brune. Je vais vous les détailler un petit peu. Et vous avez après une bière par saison. Donc en fait, vous avez 4 bières à l'année qui tournent et qui reviennent, qui sont les mêmes. Donc ça fait qu'à chaque instant de l'année, vous avez en permanence 6 bières de chez nous. C'est greffé une petite dernière qui est une limonade qui vraiment... alors pour le coup, on n'est pas paysan brasseur hein, sur la limonade parce qu'on ne fait pas pousser de canne à sucre ni de citronnier dans la Drôme. J'espère qu'on n'y arrivera jamais d'ailleurs. Mais ceci dit, on est sur une filière biologique équitable, de commerce équitable pour la limonade. Et pour nos bières, ça part donc de la blonde, je vous disais, qui est vraiment une bière de soif, très florale, légère, 4,5 degrés, jusqu'à la rousse, plutôt une bière un peu plus complexe, de garde, à 9 degrés. Et en passant par une bière ambrée, un peu plus douce, un peu plus fruitée. Une bière très originale, qui est la bière à l'ortie, que j'ai inventée il y a 7 ans, cette recette, où c'est une substitution en fait, du houblon, hein, ce n'est pas une aromatisation, substitution du houblon en grande partie par de l'ortie, ça lui amène un côté minéral, très désaltérant en fin de bouche, végétal, super intéressant. Cette bière à l'ortie, elle est passionnante par ses arômes et son côté rafraîchissant. On a aussi une brune, un porter, c'est une bière anglo-saxonne, brune assez légère, en fait. Les gens tout de suite recule quand on dit le mot brune. Goûtez-la par curiosité, c'est un produit brun, hein, avec une première bouche très café, qui tourne vite au pain grillé, mais on n'a pas de longueur en bouche, on a quelque chose vraiment qui s'échappe au palais, c'est finalement assez léger. Voilà.
Et puis ensuite, vous avez les bières saisonnières, donc...
Ouais, c'est ça. En ce moment, on est sur la bière d'été, la blanche. Blanche type Weissenbier à l'allemande, vraiment un produit laiteux, troublé, avec une grosse quantité de blé dedans. Hein. C'est la grosse différence avec la blanche par rapport aux autres types de bières. C'est qu'il n'y a pas que de l'orge, il y a aussi du blé. Et puis, ce côté très désaltérant, agrumes en fin de bouche. Voilà. Mais toutes nos bières, vous savez, je vous ai parlé de cette diversité, de ce panel de bières. Mis à part la bière à l'ortie, qui est vraiment à l'originalité, toutes nos bières, il n'y a que 3 ingrédients. Et c'est ça qui est hyper important aussi, c'est d'être... C'est d'autres authentiques. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est les valeurs que je défends, quoi. Donc, il y a de l'eau de source du Vercors, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a de l'orge de notre ferme. Bon, le houblon, vous l'avez compris, ce n'est pas encore de nos parcelles, ou très peu, parce qu'on n'est pas encore autonome, qu'on n'a pas en rive pas. Mais on va y arriver, j'en suis sûr. Déjà, cette année, on est confiant. Il ne faudrait pas qu'il y ait la grêle, mais on est confiant. Il y a une belle récolte qui est à venir.
D'ailleurs, est-ce que c'est dans vos projets peut-être de réaménager le terrain justement pour optimiser cette culture du houblon avec certaines retenues d'eau en saison de pluie et de manière à avoir une constance en alimentation ?
Ben oui, alors en fait, ça a été pas forcément dans l'aménagement du terrain, mais dans changer les terrains. C'est-à-dire que quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'historique de la création en 2016, en fait, on n'a plus du tout les mêmes champs de houblon, parce que ça n'a pas marché là où on les avait mis. Donc en fait, on a dû tout recommencer de zéro. Alors ça nous a fait perdre un peu de temps, mais par contre, c'est une super expérience, c'est un super enrichissant d'abord. Et là, justement, on cherche des bouts de parcelles, on en a déjà 2. On va en avoir un troisième, j'espère, l'année prochaine, qui va nous amener vers une quantité normalement suffisante pour arriver bientôt à l'autoproduction, à l'autonomie. Et en fait, on cherche des parcelles qui vont avoir les bonnes caractéristiques. Je vous en donne par exemple un exemple. La toute première qu'on a trouvée l'année dernière, elle a ce côté d'avoir une source naturelle qui coule dessous, qui est captée avec un puits. Donc, on peut mettre une pompe et arroser en goutte à goutte toute la saison. Et ça, c'est incroyable.
Ces points de source ou de stockage d'eau, de perception d'eau, sont à quelle altitude environ ?
On n'est pas haut là, hein. On n'est pas haut. On est le plateau des Chaux, nous on est à 400, 450 mètres. On est finalement on est moins haut que dans le Diois. Hein. On redescend vite hein, quand on va dans le Crétois hein, finalement. Même si on est dans des petites vallées nord-sud qui sont un petit peu les prémices aussi du parc. Voilà, mais on a ces sources d'eau. Et pour l'autre parcelle, c'est plutôt en bord de rivière, en bord de Gervanne en fait. Voilà, en bord de Gervanne.
La particularité de ces parcelles, on peut les décrire comment par rapport à la végétation qui y est est-ce qu'il y a des bosquets, des haies, des retenues naturelles d'eau aussi par une végétation?
Non, pas spécialement. Pas spécialement. Après, on se fie au paysage pour voyez, à se rendre compte de la possibilité d'avoir des terrains plutôt séchants ou des terrains où il va y avoir de l'eau. Sur l'exemple de la première parcelle où on a notre puits, bon, il y a le puits, donc c'est facile à voir, mais sinon, il y a un énorme peuplier aussi. Donc, qui dit énorme peuplier, dit qu'il y a de l'eau. Voilà.
On va bientôt finir. Je voulais passer aussi sur l'économie circulaire, hein, puisque déjà pour la production et même pour la logistique en général, vous essayez avec des entreprises assez proches du territoire. Le verre, par exemple, aussi, comment concevez-vous cette économie circulaire? Il y a... Ma bouteille s'appelle Revient, je crois, du côté de Chabeuil, qui propose nettoyage et stérilisation des réceptacles. Est-ce que c'est dans cette optique-là aussi, ou alors c'est du verre perdu?
Et vous savez, je vous ai parlé de tous ces gestes qui accumulés amènent au changement. Et je vous ai dit qu'il y avait certains qui étaient plus faciles à faire que d'autres. Voilà, pour nous, le verre, c'est encore une difficulté. Ce n'est pas notre intérêt qui manque, puisque j'étais même aux prémices de la création de l'Oka Vert. Ma bouteille s'appelle Revient. Mais en tant qu'accompagnateur plutôt discret, et effectivement, je suis d'ailleurs conseil d'administration, mais on n'a pas encore franchi le cap. Et on n'a pas réussi à franchir le cap pour des raisons plutôt d'ordre technique, si vous savez, par rapport aux étiquettes. C'est pas simple. Il y a des technologies qui permettent aujourd'hui d'enlever bien les étiquettes, mais elles coûtent quand même assez cher. Donc voilà, moi je crois que ce passage, il va se faire l'année prochaine. Voilà, c'est... Je crois que je suis encore aussi en train de réfléchir à... Pour moi, la consigne, c'est quelque chose de global. Et c'est quelque chose qui se travaille au niveau du consommateur. J'aimerais être capable de proposer une offre complète. C'est-à-dire que, un peu à l'instar de ce que font aussi les Allemands, vous achetez pas des bières dans des cartons, vous achetez dans des bières... vous achetez vos bières dans des caisses. Ces caisses, en fait, elles sont réutilisables et vous remettez vos bouteilles vides là où vous avez pris vos bouteilles pleines. Une fois que tout est vide, vous l'amenez au magasin qui vous les change. Il y a un vrai dynamisme autour de tout ça. Je crois que Ma Bouteille S'appelle Revient est super bien lancée pour que ça se passe bien. Et nous, on va s'inscrire dans cette démarche dès qu'on aura la capacité technique de le faire.
J'ai lu aussi sur le site, à un moment donné, peut-être de valoriser cette production de bière, celle de la brasserie des Trois Becs, avec une appellation. Ça serait une appellation d'origine contrôlée, par exemple, pour désigner un territoire précis.
Ouais, mais ça c'est farfelu, quoi. ça c'est un peu un des rêves qui m'anime. J'en ai plusieurs. Et je crois que c'est ça aussi qui me pousse à me dépasser tous les jours. Ouais, parce qu'il faudra que ça soit reconnu, ça, à un moment donné, à un moment ou à un autre. Si on veut que ça se développe, si on veut que ça se généralise, si on veut que tous les bassins de production qui sont en train de se créer en France, de se recréer dans le sud-ouest, dans le nord-est, bien sûr, il y en avait déjà, mais dans le sud-est, comme par chez nous ou plus bas, à un moment donné, toutes ces houblonnières, il va falloir les valoriser. Et... pour l'instant, on sera super fiers de pouvoir dire que c'est du houblon français. Mais demain, il faudra dire que c'est peut-être du houblon des Côtes-du-Rhône, ou du houblon de Bourgogne, ou du houblon de Bordeaux. Et ça, voilà, c'est là où rentrera peut-être l'appellation. Mais voilà, ça reste un rêve, ça reste un but.
La distribution de votre production émanant de votre brasserie, et puis bon, il y a certainement le point boutique aussi, mais est-ce que vous avez une distribution dans des commerces environnants, dans la région?
Oui, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver dans principalement et même uniquement dans la distribution spécialisée biologique, caviste, magasin aussi de terroir. Voilà, donc on a cette implantation régional. En Auvergne-Rhône-Alpes, aussi, on descend un petit peu en PACA. Et puis, on a aussi une implantation nationale qui commence, qui est naissante dans certaines enseignes biologiques. Voilà. Mais ça reste pour l'instant assez nouveau. Et c'est aussi le chemin que prend la Brasserie des Trois Becs, c'est rayonner en régional de cette bière de terroir et en donnant aussi l'image de la Drôme au niveau national.
Il y a un site internet, hein, de toute manière, pour découvrir aussi. Hein, l'adresse est
www.brasseriedestroisbecs.fr, tout attaché, tout en lettres.
Et puis, nous allons terminer l'émission avec un groupe qui est passé, donc Poca.
Alors oui, c'est Gingoloba. Gingoloba, oui. J'adore ce groupe. C'est la deuxième fois qu'ils passent. Ils étaient passés aussi l'année dernière. Ils ont une énergie incroyable. Ils transmettent vraiment un bonheur de vivre.
Eh bien, nous allons terminer avec cette musique pour l'émission. Et je vous remercie en tout cas, Emmanuel Ferra, d'être venu nous parler de cette brasserie des Trois Becs au studio de Erdiwa. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, Yves. Merci de cette invitation.
Au revoir.
Au revoir.
Tinta criama, ninguém sem pai. Pouco idêntico, eu.